Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous avançons dans le chapitre 15 de Saint Matthieu, suivant la lumière donnée par les Pères de l'Église, ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture Sainte. Nous en sommes sur le polycopier qui couvre les chapitres 11 à 15 de Saint Matthieu, à la page 39, versets 12 à 14 du chapitre 15. Alors les disciples s'approchant de notre Seigneur lui dirent, « Savez-vous que les pharisiens, en entendant cette parole, se sont scandalisés ?» Mais il répondit, « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Notre Seigneur ici nous parle du scandale. Qu'est-ce que ça veut dire un scandale? Qu'est-ce que c'est qu'un scandale? Le mot scandale, en latin, c'est la petite pierre. Le petit caillou qui est rentré dans la chaussure et qui empêche la personne de marcher correctement parce qu'il y a un caillou dans sa chaussure. Donc il va boiter. Le scandale... étymologiquement, on représente donc celui qui ne peut pas marcher droit. Au sens moral, le scandale, c'est le péché gravissime par lequel je pousse le prochain à offenser Dieu. C'est le péché par lequel je suis responsable de la damnation provisoire ou perpétuelle de la personne qui est autour de moi, à cause du mauvais exemple que je donne. Voilà ce que disent les pères. Comme le mot scandale est souvent employé dans la Sainte Écriture, il nous faut expliquer en peu de mots ce qu'il signifie. Page 39 en bas. Nous croyons pouvoir le définir une pierre d'achoppement, une cause de chute ou un choc des pieds. Une cause de chute dans le sens que le mauvais exemple que je donne à autrui va pousser le prochain à offenser le bon Dieu. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu est-il tellement sévère que le scandale? Vous connaissez, vous savez ce qu'il a dit dans l'évangile sur le scandale. Il dit, malheur par qui le scandale arrive, serait meilleur pour lui d'être, pour celui qui est cause d'un scandale, qui est responsable d'un péché de scandale, d'être jeté à la mer avec une grosse meule de moulin attachée à son cou, plutôt que d'être responsable d'un péché de scandale. Eh bien, la raison pour laquelle ce péché de scandale est tellement grave, c'est qu'il est pratiquement impossible de le réparer dans bien des cas. Imaginez quelqu'un, je donne un exemple, imaginez quelqu'un qui écrit un livre contre la foi, c'est ça qui manque aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui, dans sa folie, va écrire un livre pour essayer de faire perdre la foi aux enfants, par exemple. Il écrit une espèce de bande dessinée pour les petits, dans laquelle il se moque de Dieu, et comme il est doué, comme il est doué en termes qu'il utilise, qu'il est doué dans les dessins qu'il compose, il arrive à faire une bande dessinée qui est techniquement capable de détruire la foi des petits-enfants. Et à supposer que cette personne, avec la grâce du bon Dieu, un jour se convertisse. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. La personne donc se présente au confessionnal, si elle est baptisée, il demande pardon du fond du cœur au bon Dieu pour ses péchés, entre autres. Il va dire au prêtre, mon père, je m'accuse d'avoir écrit il y a plusieurs années, j'ai écrit un livre qui a eu un certain succès contre la foi catholique pour les petits-enfants. et j'ai certainement dû corrompre ou détruire la foi de plusieurs dizaines de milliers d'enfants, parce que ce livre s'est répandu à plusieurs millions d'exemplaires en France. Est-ce que le bon Dieu pardonne? Oui, le bon Dieu pardonne tout péché à condition qu'on le regrette. Mais à condition aussi qu'on le rattrape, qu'on répare les causes, qu'on répare, pardon, les conséquences de ces péchés. Et bien, le prêtre va être obligé de dire à cette personne, attendez, vous avez détruit la foi de dizaines de milliers d'enfants, vous dites, mais il faut réparer. Il y a trois conditions pour que un péché grave puisse être pardonné au confessionnal. Le péché est grave, pardon, si le péché, la matière est grave, s'il y a la connaissance et s'il y a le consentement. Mais pour réparer le péché, ce péché grave, il faut qu'il y ait un ferme propos d'amendement. Il faut l'accusation, il faut trois choses donc pour réparer ce péché. Il faut l'accusation, il faut la contrition, bien sûr. Donc apparemment, vous avez la contrition, vous avez l'accusation. Maintenant, il faut la réparation. Il faut réparer tout ça. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui a détruit la foi de dizaines de milliers d'enfants puisse réparer le mal qu'il a fait? C'est pratiquement impossible. Vous voyez, c'est des péchés extrêmement fréquents aujourd'hui. L'autre exemple que je donne tout le temps, surtout quand je prêche à la retraite, c'est un exemple classique. Une jeune fille qui va faire ses emplettes le samedi après-midi dans un grand magasin, une grande surface, un grand mall, et puis qui est habillée de façon provocante, de façon impudique, avec une jupe trop courte par exemple, ou un décolleté trop profond. Bien, en une demi-heure, dans une grande surface, dans un groupe de grands magasins, vous pouvez rencontrer plusieurs milliers de personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Eh bien, imaginez le nombre de péchés qui ont été commis à cause de cette jeune fille, qui s'est habillée comme une prostituée, qui a provoqué les gens à la mauvaise pensée contre la pureté à cause de sa façon dont elle était habillée. Eh bien, il n'est pas suffisant qu'elle se présente au confessionnal le samedi soir en disant au prêtre, mon père, je m'excuse, je demande pardon, mon Dieu, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris cet après-midi, je suis allé faire les courses, mais vraiment, j'étais habillé de façon provocante et j'ai provoqué des péchés de luxure chez tous les hommes qui m'ont regardé. Et comme je sais que je suis assez joli, ben, je sais que beaucoup d'hommes ont péché à cause de moi. Eh bien, il faut réparer. Comment voulez-vous, encore une fois, réparer des péchés comme ça? Et qu'il faut obtenir que tous les hommes qui ont perdu la grâce de Dieu à cause de cette jeune fille qui était mal habillée puissent réparer leur péché en allant se confesser. Donc c'est humainement parlant pratiquement impossible de réparer des péchés comme ça. Comment voulez-vous arriver à savoir combien de personnes et qui a regardé cette jeune fille avec luxure dans une mauvaise pensée dans son cœur et donc a perdu la grâce du bon Dieu? Et comment réparer ces péchés? Humainement parlant, il n'y a plus de solution. Jeter tout ça entre les mains de la miséricorde du bon Dieu. C'est pour ça que Dieu est tellement, le Fils de Dieu est tellement, tellement ferme dans ce domaine. Il vaut mieux pour quelqu'un qui a commis un péché de scandale d'être jeté à la mer avec une meule de moulin autour de son cou. Surtout, précise-t-il, pour ceux qui ont scandalisé les petits. Le scandale donné aux enfants. Imaginez tous ces, par exemple, moi ça me fait frémir. Imaginez le scandale, par exemple, qui a été donné par les prêtres modernes, les prêtres de l'Église de Vatican II, qui ont abandonné la foi et qui ont provoqué l'abandon, la destruction de la foi dans des millions d'âmes parce qu'ils ne connaissent plus leur catéchisme et qu'ils ne veulent plus l'enseigner. Imaginez le nombre de péchés mortels, par exemple, qui a été provoqué par un prêtre qui dit en chair aujourd'hui. Vous pouvez prendre la pilule, il n'y a plus de problème. Il est responsable de tous les péchés qui vont être commis, de tous les milliers d'enfants qui auraient dû naître, qui ne sont peut-être pas nés à cause de la pilule, compris des personnes qui ont pris peut-être la pilule de bonne foi parce que le curé leur a dit qu'il n'y avait plus de péché ou qu'on pouvait le faire aujourd'hui. C'est pour ça que les pères disent que c'est une pierre d'achoppement, une cause de chute. Cause de chute, c'est-à-dire la pierre qui est laissée traîner par les architectes qu'on a laissé traîner, que les ouvriers ont laissé traîner sur le chantier, on bute dessus, on tombe. C'est ça le sens du scandale. Donc les pharisiens qui se scandalisaient, c'est ce qu'on appelle le scandale pharisaïque justement, le scandale hypocrite.
Alors qu'ils utilisent une parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui détourne de son contexte pour faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc, dans ces paroles, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera arrachée. Ces paroles signifient que toute tradition humaine qui sert de prétexte à la violation de la loi doit être arrachée et rejetée. Donc, je pense qu'il était nécessaire, vous voyez, devant des phrases de ce genre, tout simplement faire un examen de conscience. Parce que le problème aussi qu'on rencontre avec le scandale, c'est que peu de gens pensent à les accuser. On pense à accuser son péché personnel. Oui, monsieur l'abbé, j'ai écrit un mauvais livre. Monsieur l'abbé, je me suis mal habillé, je suis allé en public, j'ai mal habillé comme ça. Ça, très bien, les gens l'accusent. Mais ils ne pensent pas à accuser aussi tous les péchés qu'ils ont provoqués à cause du mauvais exemple qu'ils ont donné aux gens autour d'eux. Et bien, cette plantation signifie les docteurs de la loi et leurs disciples qui n'avaient pas Jésus-Christ pour fondement. Le Sauveur donne la raison pour laquelle ils seront déracinés. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc celui qui donne scandale est quelqu'un qui est un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Imaginez un guide de montagne qui est aveugle. Comment voulez-vous qu'il guide son client? C'est impossible. Imaginez un guide qui ne connaît pas du tout la montagne, qui est un faux guide en fait, qui prétend connaître la montagne, donc qui prend des clients avec lui pour les mener dans une phase dangereuse d'une falaise, en prétendant connaître bien ce coin-là, qu'il ne connaît pas du tout. Donc il entraîne les clients dans des circonstances impossibles et puis tout le monde va mourir, ce sera la faute du guide. Donc le mot plante qui est utilisé ici au verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Le mot plante représente les hommes. Ces hommes ont été plantés par Dieu au paradis. Mais après avoir été corrompus par le serpent, ils sont de nouveau plantés par Dieu avec le Christ qui est l'arbre de vie. Ils sont plantés par la foi et la grâce et porteront alors des bonnes œuvres pour la vie éternelle. Donc malheur à ceux qui arrachent une plante qui a été plantée là par notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur par celui par qui le scandale arrive, dit bien notre Seigneur. Alors si cette plante plantée par notre Seigneur Jésus-Christ ne donne pas de fruits ou donne des fruits corrompus, des mauvais fruits, ils devront être jetés au feu comme Saint Jean-Baptiste en a menacé les pharisiens. Il a appelé les pharisiens vaste race de vipères, a-t-il dit. Et notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit que si l'arbre donnait un arbre bon, pouvait pas donner mauvais fruits, mais un arbre mauvais pouvait pas donner de bons fruits. Et donc celui qui donne des mauvais fruits, l'arbre qui donne des mauvais fruits sera jeté. Même si notre Seigneur Jésus-Christ est patient, rappelez-vous l'histoire du jardinier qui reçoit la visite du maître du jardin, qui dit, mais comment se fait-il là que ce figuier qui est planté là, il n'y a encore pas de figues, c'est la saison des figues, il ne donne pas de fruits, déjà l'année dernière il n'y a pas de fruits, et cette année non plus, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter, couper ce figuier et le jeter. Qu'est-ce que dit le jardinier? Il dit, écoutez Seigneur, attendons encore un an, je vais mettre du fumier autour du pied de l'arbre, je vais bêcher, je vais arroser, je vais protéger cet arbre de façon toute spéciale, puis bon, on va espérer qu'il va se mettre à travailler cet arbre et bien donner du fruit. Bon, si l'année prochaine encore il ne donne pas de fruit, bon ben à ce moment-là, effectivement, vous avez raison, je le couperai et je le brûlerai. Eh bien, cette plante, c'est donc notre âme. Et donc, est-ce que notre âme donne du fruit devant Dieu? Malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes devenus non seulement des aveugles, ce qui est déjà grave. L'aveugle, c'est celui qui refuse d'ouvrir les yeux pour voir la vérité en face. Non seulement nous sommes devenus des aveugles, mais nous sommes devenus des aveugles qui conduisent les aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, dit notre Seigneur, tous deux tombent dans la fosse. Donc posez-nous la question, surtout les parents qui m'écoutent ici, qui m'écoutent sur Internet, posez-nous la question, est-ce que j'étais un bon exemple pour mes enfants? Et est-ce que, je pense que c'est une question que les parents devraient se poser tous les soirs, pas simplement les parents, tous ceux qu'on charge là, moi c'est pareil en tant que prêtre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a perdu la foi à cause de moi? Est-ce que par le mauvais exemple que j'ai donné, dans quelque chose que j'ai dit, quelque chose que j'ai écrit, ma façon d'agir, est-ce que j'ai poussé une personne dont j'ai la charge, alors surtout mes enfants, est-ce que j'ai poussé un de mes enfants à vivre dans le péché mortel? Est-ce qu'un de mes enfants vit dans le péché mortel parce que depuis des années je lui ai rien dit et que malheureusement je le laisse se contaminer et contaminer les autres par le mauvais exemple qu'il donne? J'ai connu des tas de jeunes, malheureusement, qui ont complètement perdu la foi à cause de la faiblesse et de l'imbécilité des parents qui ont tout laissé faire. Dieu sait si on les a prévus, les parents. Ah non, il faisait rien, il laissait les choses se faire, et du coup, ben, l'enfant est tombé, le jeune est tombé dans le péché, commençait à vivre dans le péché, et rester dans le péché, après c'est pratiquement impossible à déraciner sans que le bon Dieu s'en mêle. Donc ceux qui produisent du scandale sont toujours les ennemis de Christ, et à ce titre le sont également de Dieu le Père. Disent les pères en haut de la page 40. Passons au verset 15 à 20 du chapitre 15 de Saint Matthieu. Pierre, prenant la parole, lui dit, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous êtes vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche part du cœur, c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Donc les pharisiens se scandalisaient parce que les apôtres ne remplissaient pas toutes les injonctions académiques et coutumière des juifs, entre autres de se laver les mains avant de toucher la nourriture. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur fait comprendre, par l'exemple qu'il donne, il leur fait comprendre que ce qui est important, c'est ce qui souille l'âme, pas ce qui souille le corps. Le corps, on le lave et puis c'est tout. C'est ça le drame. Le drame aujourd'hui, j'en ai déjà parlé souvent dans les sermons ou dans les conférences, le drame c'est que les hommes oublient complètement qu'ils ont un corps et une âme. Et je vous assure que si tous les hommes passaient le dixième du temps qu'ils passent pour protéger leur corps sur leur âme, ils seraient tous des saints depuis longtemps. On voit ce que les gens sont capables de faire physiquement pour faire une prouesse sportive, c'est ahurissant. Ils sont capables de faire des pénitences absolument épouvantables pour perdre quelques kilos. Il faut voir les pénitences alimentaires qu'ils sont capables de faire certains mannequins, par exemple modernes, pour perdre un demi kilo parce qu'elles ont un demi kilo de trop et qu'elles considèrent qu'elles vont pas avoir un contrat photographique ou je ne sais trop quoi parce qu'elles sont un peu trop grosses. Mais elles sont capables de cesser littéralement mourir de faim. Et si on leur demandait le dixième de ça au début de carême, elles pousseraient des cris de putois. Vous voyez, donc ce qui compte, c'est ce qui souille l'âme. Est-ce que je garde dans ma maison, est-ce que je garde dans ma vie de tous les jours des choses qui souillent mon âme ou qui souillent l'âme, les âmes de ceux dont j'ai la charge, commencez par mes enfants. Voilà les choses qui souillent l'homme, dit notre Seigneur, mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui souille l'âme. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Donc les choses qui sont au fond du cœur restent dans l'homme et le souillent non seulement lorsqu'elles y restent, mais surtout lorsqu'elles en sortent. C'est pour cela que notre Seigneur ajoute, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Il met les mauvaises pensées en première ligne parce que c'est le vice particulier des Juifs qui lui tendait des embûches. Chercher, au lieu de se convertir, chercher à trouver la faille dans le raisonnement de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'accuser devant les princes des prêtres. Ben, nous, c'est un peu pareil. De mon âme sort le meilleur et le pire. Qu'est-ce qui est sorti de mon âme récemment? Est-ce que j'ai sorti des bonnes choses ou est-ce que j'ai sorti des fruits contaminés qui ont fait un dégât énorme? On voit par exemple toutes les médisances, les calomnies, les jugements téméraires qui tournent sur Internet, c'est affolant, absolument affolant. C'est ça que je demande souvent, j'insiste souvent là-dessus, de plus en plus d'ailleurs dans les retraites que je donne. J'insiste surtout auprès des jeunes de faire attention avec les réseaux sociaux. Parce que la plupart de ces péchés gravissimes contre la charité, une calomnie, dire mentir contre le prochain pour détruire sa réputation, ou même une médisance, c'est-à-dire dire du mal vrai contre le prochain sans avoir une raison proportionnée pour le dire, eh bien, ce sont des péchés graves. Avec des graves conséquences, et jugement téméraire, c'est pareil. Ça court les rues, ça court les ondes, plus exactement, avec les réseaux sociaux Internet. Et beaucoup de jeunes, même catholiques, se laissent avoir là-dedans, ils se rendent dans les réseaux internet, ils vont sur, ils appellent ça, je crois, le mur internet, et là, ils mettent des messages ahurissants contre le prochain, contre autrui, sous prétexte qu'ils sont protégés par l'anonymat. Attention, vous aurez à rendre un compte exact de tous ces péchés contre la vertu de justice, hein. Tout péché contre la justice exige une réparation. Tout péché en général, d'ailleurs. Il y a certains péchés, vous n'offensez que Dieu et vous. Bon, mais il y a certains péchés, vous offensez Dieu, vous-même et les autres. Alors, quand c'est un péché qui n'offense que Dieu et nous, bon, on peut vraiment se demander, on peut vraiment se mettre à genoux avec humilité devant le bon Dieu, obtenir le pardon du bon Dieu, on peut effacer son péché personnel, mais quand le péché regarde aussi d'autres personnes, il s'agit d'effacer le péché sur les autres personnes qui ont été blessées, humiliées, qui ont été souillées par les mauvais exemples que je leur ai donnés par le péché de scandale. Le Christ tente de leur expliquer donc que la nourriture impure ne pollue pas l'âme, contrairement à ce que les scribes enseignaient. Car ce qui est impur et malpropre dans la nourriture est déversé dans la fosse. Ce qui reste est pur et sera transformé en bol alimentaire, puis en sang et en chair. Ces choses ne peuvent pas salir un homme, ni par lui son âme. Donc ne craignez pas, dit notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui peuvent faire du mal à nos corps. Craignons ceux qui peuvent faire du mal à nos âmes. On voit très bien dans les martyrs des premiers siècles le nombre de martyrs qui ont été coupés en rondelles littéralement par les ennemis de l'Église. Mais les ennemis de l'Église pouvaient atteindre le corps des martyrs, ils ne pouvaient pas atteindre leur âme. Hein? Et les païens avaient un mal fou à comprendre ça. Donc les martyrs leur disaient, mais moi j'ai un ange tutélaire qui me protège, et même si vous pouvez toucher mon corps, vous ne pourrez pas corrompre mon âme. Et entre autres, c'était les vierges qui disaient ça, à tel point que certains hommes politiques romains, à l'époque, les persécuteurs de l'Église, disaient « Bon, ben, je vais t'envoyer dans une maison de dépouille, comme ça ton âme sera souillée, tu perdras ton âme aussi. » Et elle disait « Non, parce que je n'accepte pas ces péchés-là, et tu peux me mettre dans une maison de dépouille si tu veux, mais mon âme ne sera pas souillée parce que je n'accepte pas ce péché. » Tant que je ne l'ai pas accepté dans mon âme ne sera pas souillée, mais tu vas pouvoir sur mon corps, mais pas sur mon âme. Donc apprenons par ces mots, disent les pères, que le cœur des hommes doit être préparé, orné, gardé pour toutes les vertus. Donc attention, si certains d'entre vous qui m'écoutent là sont coupables, ces péchés de scandale par faiblesse, et s'ils se sont comportés comme des aveugles conduisant d'autres aveugles, ils sont tombés dans la fosse, eux et les autres qui sont tombés avec eux. Il ne s'agit pas simplement de dire, mais moi je suis sorti de la fosse, et les autres, ceux qui sont tombés avec vous, est-ce qu'ils en sont sortis aussi? Il faut avoir le courage de le dire au confessionnal, et dire, mon père, il y a encore bien des gens qui sont au fond du gouffre à cause de moi, et moi je suis sorti avec la grâce du bon Dieu, mais ils sont toujours là-bas, qu'est-ce que je fais? Il faut essayer de les sortir aussi. On avance dans le chapitre 15, versets 21 à 28. Étant parti de là, Jésus se retira du côté de Tyr et de Sidon, page 40 sur le polycopie. Et voici qu'une femme cananéenne, venue de ses contrées, s'écria en lui disant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est affreusement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'approchant de lui, le priaient en disant « Renvoyez-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint, l'adora, en disant « Seigneur, secourez-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Un jour, Jésus lui répondit « Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait comme vous le voulez. » Sa fille fut guérie à l'heure même. Un beau miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas très facile à comprendre dans les expressions. Donc, il s'agit de la Cananéenne, femme de Cana en Galilée. Voyons la grande foi de la Cananéenne. Elle reconnaît un Dieu dans celui qu'elle appelle son Seigneur. C'est pour cela qu'elle lui demande le miracle. Elle confesse en même temps son humanité en l'appelant fils de David. Donc, il est Dieu et homme. Et elle avoue qu'elle n'a aucun droit, aucun mérite. C'est la seule miséricorde de Dieu qu'elle implore en disant « Ayez pitié de moi, car la douleur de la fille est la douleur de la mère ». Donc elle a à la fois foi en la foi catholique, si vous voulez, ou la foi théologale en Dieu, en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en sa propre indignité. Et elle sait que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour les pauvres, il n'est pas venu pour s'occuper des gens en bonne santé, il est venu pour s'occuper des malades, des pauvres. Donc pour toucher davantage le cœur du Seigneur, on est en haut de la page 41 maintenant. Pour toucher le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, elle lui fait le tableau du malheur qui l'afflige. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Parole qui découvre au médecin les plaies qu'il doit guérir et qu'il lui faut connaître, qui lui font connaître la grandeur et la nature du mal. Sa grandeur lorsqu'elle dit il est tourmenté, elle est tourmentée misérablement, et sa nature lorsqu'elle ajoute par le démon. Donc ça montre, c'est une image du sacrement de pénitence là. La personne qui s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, et qui explique, qui fait le tableau des malheurs qui l'affligent, qui fait le tableau de ses péchés, en donnant certains détails. Il faut expliquer à la fois le nombre et les circonstances, surtout les circonstances qui changent l'espèce de péché. Il faut expliquer la nature du péché. Ça suffit pas de dire j'ai commis un vol. Bon. Quelle quantité avez-vous volé? Avez-vous volé à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et vous volez à un pauvre? Vous volez 50 euros à un pauvre, c'est un péché gravissime. Vous volez 50 euros à un milliardaire, c'est aussi un péché. Mais enfin, c'est un péché moins grave parce que le milliardaire, il paye des billets de 50 euros, il ne sait plus quoi en faire. Alors, voyons un petit peu l'explication des pères sur ce passage. Les pères ont beaucoup parlé sur ce passage, ce miracle de notre Seigneur. Les enfants, disent-ils, ce sont les Juifs. Les Juifs engendrés et nourris par la loi dans le culte du seul Dieu. Le pain, c'est l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ parle du pain. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Donc les enfants, ce sont les Juifs. Et le pain, c'est l'évangile. Et les miracles. Et tout ce qui concourt à notre salut. Donc ça, c'est des pains. Il n'est pas convenable que toutes ces grâces soient enlevées aux enfants et données aux gentils, qui sont ici désignés par les chiens. Les chiens sont les païens, jusqu'à ce que les Juifs aient rejeté les biens qui leur sont offerts. Dieu avait un peuple élu. Ce peuple élu dans l'Ancien Testament, c'est le peuple juif. Et malheureusement, ce peuple élu a refusé notre Seigneur Jésus-Christ, refusé le sacrifice de la croix, refusé le sacrifice rédempteur. Et donc, le bon Dieu est allé chercher d'autres personnes. Il va remplacer le peuple élu de l'Ancien Testament par un nouveau peuple élu, qui sont les chiens, les petits chiens qui vont manger les miettes qui tombent de la table de l'armée, c'est-à-dire qui tombent de la table du peuple juif qui était le peuple élu de l'Ancien Testament. Donc, le nouveau peuple élu, bien, c'est le peuple qui ont cru, le peuple qui a cru, pardon, la miséricorde du bon Dieu, qui a cru aux grâces de la Passion, et qui a accepté de se mettre à genoux au pied de la croix pour demander le pardon, et qui a vu le sang rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ tomber sur le front et les âmes de ces gens qui étaient des païens, mais qui étaient au pied de la croix. Les Juifs, au contraire, pour la plupart d'entre eux, malheureusement, n'ont pas voulu se mettre au pied de la croix et ont perdu leurs privilèges, sauf ceux qui se sont convertis. N'oublions pas que tous les grands saints de l'Église catholique, surtout au début de l'histoire de l'Église, au début de autant de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les premiers chrétiens de l'époque sont tous des juifs convertis, hein, pratiquement tous des juifs. Quelques païens, mais la plupart étaient des juifs de l'Ancien Testament, qui sont convertis. La Sainte Vierge Marie était une juive, elle n'était pas convertie, parce qu'elle a toujours été dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est Immaculée Conception. Elle a toujours été sainte. Contrairement à ce que raconte Bergoglio, qui prétend qu'elle est devenue sainte petit à petit, c'est complètement faux, parce qu'elle est Immaculée Conception. La Sainte Vierge Marie est sainte dans sa nature même depuis toujours, depuis le moment de sa conception, dans le sein très pur, dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Donc, les petits chiens qui viennent manger les miettes représentent les païens. Donc, ils s'approchent de la table sur lesquels notre Seigneur Jésus-Christ offre le sacrifice, qui s'approche de la croix et qui récupère au pied de la croix les grâces que le bon Dieu voulait d'abord donner à son peuple juif, d'abord donner au peuple juif. Malheureusement, le peuple juif a refusé la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, alors notre Seigneur Jésus-Christ est allé chercher d'autres personnes. Mais il ne faut pas oublier, c'est l'enseignement de saint Paul, que malgré tout cela, malgré le fait que les juifs ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez crucifié l'auteur de la vie, dit saint Pierre, et bien malgré cela, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas abandonné le peuple juif, et qu'à la fin des temps, il y aura la conversion au moins d'un reste du peuple juif. Alors, c'est très difficile de savoir ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, mais un des signes de la fin du monde sera la conversion du peuple juif, il se convertira au vrai Dieu. Il faut donc prier pour eux, Et ne pas oublier que ces gens ont été, le peuple juif a été pendant plusieurs millénaires, le peuple élu, le véritable peuple élu. Bon, maintenant, le peuple élu, c'est ceux qui reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple des catholiques, c'est évident. Donc, les gentils sont appelés chiens à cause de leur idolâtrie. Parce que semblables aux chiens qui se nourrissent de sang et qui dévorent leurs cadavres, les cadavres, ils sont atteints d'une espèce de rage. Remarquons encore qu'elle obtient elle-même ce que les apôtres ont pu obtenir. Donc c'est cette femme, cette cananéenne, obtient elle-même ce que les apôtres ont pu obtenir dont la prière persévérante a de puissance. Dieu en effet aime mieux que nous le prions beaucoup nous-mêmes pour nos péchés plutôt que d'avoir recours aux prières d'autres personnes. Donc voyez, il faut faire comme la cananéenne. Le bon Dieu va pas la guérir tout de suite, il exige un acte de foi, donc elle s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, secourez-moi. Et les disciples sont gênés par cette femme qui n'arrête pas de crier auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Secourez-moi, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Et ils disent à notre Seigneur, mais renvoyez-la, qu'il nous fiche la paix, elle crie derrière nous. Rappelez-vous, l'aveugle aussi sur le bord de la route, qui entend arriver une foule, alors il demande aux gens qui sont à côté de lui, c'est qui, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Alors il se lève sur son séant, immédiatement, il se lève sur ses pieds, et puis il commence à crier, et aveugle, il voit rien. Il sait que notre Seigneur Jésus qui arrive, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Alors, tout le monde veut le faire taire, mais on n'entend plus rien, ce qu'il dit le maître, taisez-vous, arrêtez de parler. Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Notre Seigneur Jésus qui arrive, l'appelle. Il appelle tous les pécheurs à se convertir. Que voulez-vous? Seigneur, que je sois guéri, je suis un aveugle, je veux retrouver la vue. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit cette fois, allez en paix, et retrouve la paix, et retrouve surtout la vue. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu notre histoire. Nous aussi, on est comme cette cananéenne. La cananéenne, elle n'est pas malade par elle-même, elle a une fille qui est affreusement tourmentée par le démon. Bon, ben, ça représente l'âme, notre âme, ou l'âme du voisin, l'âme des gens dont nous avons la charge, qui est affreusement tourmentée par le démon, c'est-à-dire par le péché. Alors il faut revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, secourez-moi. Et si notre Seigneur semble ne pas écouter, il faut revenir s'accrocher. Même si les gens autour de nous disent qu'on gêne notre Seigneur, il faut s'accrocher, continuer avec beaucoup d'humilité, demander ce travail de conversion, demander cette conversion, et le bon Dieu pardonne le péché. Et le bon Dieu pardonne le péché, mais il existe de la persévérance. Il faut prier pas simplement avec humilité, il faut prier aussi, nous dit le catéchisme, avec persévérance, sans se décourager jamais. Dans le sens allégorique, donc cette cananéenne, cette femme cananéenne, donc au verset 22 du chapitre 15 de saint Matthieu, cette femme cananéenne est la figure de la Sainte Église. Elle est formée et rassemblée de toutes les nations. Le Seigneur, en abandonnant les scribes et les pharisiens pour venir dans le pays de Tyr et de Sidon, figurait l'abandon où il devait laisser les Juifs pour porter l'évangile aux gentils. Donc c'est la substitution. Le peuple juif qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ est abandonné et remplacé par un nouveau peuple qui comprend d'ailleurs beaucoup de Juifs convertis. N'oublions pas que, encore une fois, les premiers convertis étaient tous des Juifs convertis et qui vont former un nouveau peuple élu dans lequel vous et moi, auquel nous appartenons par le baptême. À ce propos, je vous rappelle, je l'ai déjà dit souvent, mais j'insiste là-dessus, parce que dans la vie de la tradition, c'est parfois un peu pénible. Je vous rappelle que l'antisémitisme en tant que tel est condamné par l'Église. On ne peut pas être contre les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Même si en face de nous, vous avez un pécheur, par exemple, il faut aimer l'homme, haïr le péché, bien sûr, mais aimer l'homme. Donc l'antisémitisme qui consiste à haïr le juif parce qu'il est juif est contre la charité chrétienne. C'est absolument évident. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tous les ennemis de l'Église rentrer chez nous tous les tours de l'intérieur. Il faut protéger sa maison, c'est absolument évident. De la même façon qu'il faut qu'un père de famille aujourd'hui protège sa maison contre tous ceux qui, et c'est pas ça qui manque dans le monde moderne, qui autour de nous cherchent qu'une seule chose, c'est à rentrer dans la maison pour tout casser à l'intérieur et tout voler. Cette femme donc a passé les frontières de son pays, de même la Sainte Église a quitté ses anciennes erreurs et ses vices d'autrefois. Il parle des erreurs de non pas de l'Ancien Testament en tant que tel, mais les erreurs des ceux qui étaient dans une fausse religion. Cette fille de la Cananéenne, qui est malade, qui est affreusement tourmentée par le démon, ce sont les âmes des fidèles, qui sont eux-mêmes cruellement tourmentées par le démon, alors qu'elles étaient privées de la connaissance de leur Créateur, qu'elles adoraient les idoles de pierre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses missionnaires, les prêtres, les missionnaires, pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, avec la grâce du bon Dieu, sortir les âmes de l'idolâtrie et des ténèbres. Les enfants, ce sont les patriarches, les prophètes de ce temps-là. La table figure la Sainte Écriture, ça c'est Saint Rémy qui parle. Les miettes, les préceptes secondaires, ou les mystères intérieurs dont se nourrit la Sainte Église. Les croûtes de pain, les préceptes extérieurs et charnels, qu'observaient les Juifs. Donc les miettes sont mangées sous la table, parce que l'Église se soumet avec humilité à l'accomplissement des préceptes divins. Vous voyez, quand avec humilité et persévérance, on s'accroche aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ finit par écouter. Mais parfois, il existe cette persévérance. Il existe que l'on répète les mêmes choses, parfois plusieurs fois avant d'écouter, parce qu'il veut qu'il y ait un véritable regret de nos péchés. Pour ça, par exemple, pour pardonner le péché de Saint-Pierre, qui trois fois l'avait apostasié, pas rien, eh bien, il va exiger trois fois un acte de charité, un acte d'amour de la part de Saint-Pierre. Simon, est-ce que vous m'aimez? Oui. Payez mes agneaux. Simon, est-ce que vous m'aimez? Oui, Seigneur, je vous aime. Payez mes brebis. Simon, est-ce que vous m'aimez? Oui, oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Payez mes agneaux, payez mes brebis. Le Seigneur va faire répéter trois fois l'acte d'amour, un acte de charité de la part de Saint-Pierre pour rattraper la triple apostasie de Saint-Pierre. Alors, Rabbin Mor explique, les petits chiens, donc les païens, ne mangent pas les croûtes, mais les miettes du pain des enfants. Ainsi, lorsque ceux qui étaient l'objet du mépris parmi les nations se convertissent à la foi, ils ne cherchent pas l'écorce de la lettre dans les Saintes Écritures, mais le sens spirituel qui peut hâter leur progrès dans les bonnes œuvres. Donc, ces miettes de pain représentent justement les grâces du bon Dieu que le bon Dieu a préparées aussi pour les païens. Le serviteur du centurion, la fille de la Cananéenne, ont été guéris sans que le Seigneur soit entré dans leur maison. Et figure les nations qui, sans être visitées extérieurement par Jésus-Christ, seront sauvées par sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ va rester en Palestine pendant sa vie. Il ne va pas aller visiter tout de suite les autres pays. Il va envoyer après des missionnaires, surtout Saint Paul. Donc d'abord, au début, les apôtres vont prêcher uniquement dans le monde juif, et ensuite, ils vont être envoyés dans le monde entier, ils vont partir à la conquête des âmes dans le monde entier. C'est à la prière donc du centurion et de la cananéenne que les enfants sont guéris. Et ils sont en cela la figure de l'Église, qui, tout à la fois pour elle-même, est la mère et les enfants. Ils sont dans cela la figure de l'Église qui est tout à la fois pour elle-même et la mère et les enfants. Car la réunion de tous ceux qui composent l'Église porte le nom de mère et chacun des membres reçoit le nom d'enfant. Donc nous sommes enfants d'une même mère. Cette mère, c'est l'Église. L'Église catholique est véritablement notre mère. Il faut avoir un grand amour pour notre mère spirituelle, à savoir notre Sainte Vierge Marie, mais aussi une autre mère spirituelle qui est l'Église catholique, parce que la très Sainte Vierge Marie va nous parler, va nous amener à notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de l'Église catholique. Et donc il ne faut pas laisser l'Église catholique être attaquée par les ennemis de l'Église comme ça. Il faut la défendre notre mère. Imaginez un enfant qui laisse sa mère être injuriée publiquement par d'autres personnes qui ne fait rien, ce serait un crime abominable. Il faut défendre notre mère, défendre la foi catholique. Le problème, c'est que la plupart des gens ne jugent que sur ce qu'ils entendent, sur la télévision, ce que dit Internet, ce que dit la télévision, et puis ils jugent évidemment complètement à côté de la plaque. Regardez par exemple tout ce qui est dit actuellement contre l'Église catholique. Pas simplement contre l'Église catholique, mais contre toute partie de l'histoire de notre pays, surtout l'histoire de l'Église, qui est en relation avec le catholicisme. Regardez par exemple les attaques, surtout dans les écoles, contre le Moyen-Âge chrétien. Donc le Moyen-Âge a été une période merveilleuse pour la chrétienté. On appelle le XIIIe siècle, par exemple, le siècle de Saint-Louis, le siècle de Saint Thomas d'Aquin, le siècle de Saint François, de Saint Dominique. On appelle le XIIIe siècle l'âge d'or du catholicisme. Imaginez ce que ça devait être. C'est des choses qu'on peut plus imaginer actuellement. Imaginez ce que ça devait être d'avoir comme chef d'État un saint, Saint Louis. Et il n'est pas le seul. À même époque, son cousin, c'était Saint Ferdinand, était chef politique en Espagne. Bon, il y a eu des tas de saints qui ont été chefs d'État et qui ont été rois, par exemple. Bon, et là, il faut voir absolument la grandeur de ces temps dans lesquels l'Évangile était vraiment prêché partout dans le pays. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, bien sûr que non. Mais il y avait un véritable esprit catholique au Moyen Âge, malgré les difficultés dues, entre autres, tout simplement aux épidémies, aux guerres constantes, qui étaient malheureusement l'apanage de ce temps-là, au Moyen-Âge. Il y avait beaucoup de guerres entre les différents États, malheureusement. Il y avait de grandes épidémies, mais il y avait l'Église qui était là pour justement consoler, réconforter, et ne croyait pas à toutes ces bêtises qui ont été écrites par tous les ennemis de l'Église, tous ces livres, ces centaines, milliers de livres qui ont été écrits contre le Moyen-Âge chrétien par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Je vous conseille beaucoup d'écouter, par exemple, les conférences de Marion Sigaud sur le Moyen-Âge chrétien. C'est une spécialiste du Moyen-Âge et elle a fait des conférences qui sont très intéressantes pour montrer justement ce qu'est le Moyen-Âge chrétien, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente. Ce qu'on appelle la légende noire. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Quand j'étais en Amérique latine, ça m'avait beaucoup frappé aussi. Toute la littérature d'Amérique latine présentait Cortés, les premières personnes qui ont été envoyées par l'Espagne, par la reine catholique d'Espagne, au début du... après 1492, donc avec la découverte du Nouveau Monde, donc l'Espagne catholique a envoyé des missionnaires partout pour convertir les âmes, amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien sûr, il y a eu certainement des abus, c'est certain. Et vouloir présenter tous les conquérants envoyés par l'Espagne, vouloir présenter tous ces envoyés de l'Espagne catholique et du Portugal catholique comme tous des bandits qui ne pensaient qu'à une seule chose, à faire des esclaves et à se remplir les poches d'or, c'est totalement faux. Il fallait voir la foi d'un Cortés, par exemple, c'est admirable. Il faut lire la véritable histoire de l'Amérique latine, qui n'a rien à voir évidemment avec ce qu'on vous présente. Il y a eu des héros de la foi extraordinaires. Vous voulez en connaître un, les jeunes qui me disent, monsieur l'abbé, il n'y a plus de politiciens, ils sont tous véreux. Pouvez nous donner l'exemple d'un bon politicien? Je dis, allez lire la vie de Garcia Moreno. Gabriel de Garcia Moreno. Lisez le livre du père Berthe, en deux volumes. La vie de Garcia Moreno, qui est extraordinaire. Ça montre le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ en matière politique, lorsque le chef politique remplit son rôle de chef, comme catholique. Bon, ça lui coûtait cher, hein. Il est mort martyr, assassiné par la franc-maçonnerie allemande en 1875. Je vous conseille beaucoup ce livre qui remonte le moral. Vous voyez, c'est d'avoir la véritable histoire qui n'a rien à voir avec les mensonges de l'histoire. C'est pareil, par exemple, à chaque fois qu'on peut aujourd'hui salir l'Église catholique, on le fait. Vous voyez ? Donc il faut enlever les souillures que le monde moderne a placé sur la tête de notre mère, à savoir l'Église catholique. Je parle de l'Église catholique, hein, je ne parle pas de l'Église de Vatican II qui n'a plus rien à voir avec l'Église catholique. Hein. Donc c'est la prière du centurion de la Cananéenne que leurs enfants sont guéris, sont en cela la figure de l'Église qui est tout à la fois pour elle-même et la mère et les enfants. Car la réunion de tous ceux qui composent l'Église porte le nom de mère, et chacun des membres reçoit le nom d'enfant. Pour cette femme qui franchit les frontières de son pays, la figure des prosélytes, elle sort du milieu des nations pour venir au milieu d'un peuple qui lui est étranger. Elle prie pour sa fille, c'est-à-dire pour le peuple des gentils, soumis à la domination des esprits immondes, et comme la loi lui a fait connaître le Seigneur, elle l'appelle fille de David. Alors, autre précision des pères de l'Église, ici c'est Rabban Mor, en bas de la page 41. Disons encore que celui dont la conscience est souillée de la tache du péché a sa fille tourmentée cruellement par le démon. De même, celui qui empoisonne ses bonnes œuvres par le venin du péché a également sa fille agitée par la fureur, les fureurs de l'esprit impur. Et ils doivent tous deux, avoir recours aux prières et aux larmes et réclamer le secours et l'intercession des saints pour arriver au confessionnal et retrouver la paix de la conscience. Ici, une petite note historique. Les Cananéens sont les mêmes que les Phéniciens. On parle le mot pain. Si on parle, l'évangile nous parle de ce miette de pain. Le Christ ne signifie pas le pain corporel, mais le spirituel, à savoir la grâce de l'évangile et ses miracles, et surtout la grâce du Sainte Eucharistie. Donc, il faut méditer sur cette attitude de la femme cananéenne et comment elle s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ et obtient de notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'apparemment il ne voulait pas donner au début. En fait, le Seigneur voulait couvrir de grâce la cananéenne, mais il a voulu attendre pour qu'elle lui demande avec humilité ce qu'elle souhaitait. En fait, cette femme, cette cananéenne, nous apprend à prier, nous enseigne à prier. En bas de la page 41, voilà ce que disent les pères. Elle nous enseigne à prier d'abord avec humilité, puis avec modestie, avec prudence, avec révérence, religion et dévotion, avec confiance, avec ardeur et charité, avec constance et persévérance. On va y expliquer un petit peu ces termes des pères. D'abord, cette femme cananéenne qui supplie, resupplie notre Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne à prier avec humilité. Elle se reconnaît comme un chien, mais aussi avec foi, en appelant le Christ, le Fils de David, c'est-à-dire le Messie, le Dieu et sauveur promis aux Juifs. Et parfois, on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Il faut persévérer, pas se décourager et continuer de persévérer. Donc, elle nous enseigne à prier pas simplement avec humilité, ce qui est la première condition pour que la prière soit entendue par le bon Dieu. Celui qui prie avec orgueil, c'est le pharisien de l'évangile qui se présente à la porte du temple et qui dit « Moi, je. » Au contraire, le publicain qui se présente à la même porte du temple, à genoux, en train de baisser devant le sol et baisser les yeux, et qui n'ose même pas porter vers l'autel, qui dit « Moi, je suis le dernier des misérables, pardonnez aux pécheurs que je suis, Seigneur. » Et le publicain sort de l'église racénéré et pardonné, alors que non seulement le pharisien n'est pas pardonné, mais il sort avec des péchés d'orgueil en plus. Donc cette femme nous enseigne à prier avec humilité, mais aussi avec modestie. Car elle place devant le Christ le droit des chiens et sa propre misère. Elle n'exige pas la guérison de sa fille, mais place tout en lui. Seigneur, secourez-moi. Donc l'humilité qui est là. On continue, page 42. Nous arrivons presque à la fin du chapitre 15. Page 42, en haut de la page. La cananéenne, nous disent les pères, nous enseignent à prier, donc pas simplement avec humilité, avec modestie, mais aussi avec prudence. En prenant le Christ par ses propres paroles et tournant son raisonnement contre lui en un argument pour obtenir ce qu'elle désire. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Je n'ai pas été envoyé brebis perdu dans la maison d'Israël, c'est-à-dire je suis là pour les Juifs, pour le moment », elle dit « Oui, mais les petits chiens jettent les miettes, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La table des maîtres, c'est la table des Juifs. Moi, je suis un tout petit chien, mais je mangeais les miettes. Donc, j'ai aussi quelque chose pour moi. » Elle nous enseigne à prier avec révérence, religion, dévotion. Elle fait sa supplication à genoux, mais aussi avec résignation, en ne disant pas « Guérissez ma fille, mais aidez-moi. » En lui laissant le choix de ce qui est le mieux. Elle sait ce qui est le mieux pour elle et pour sa fille. Elle connaît la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle expose son cas. Et comme le Seigneur Jésus-Christ semble ne pas écouter, elle revient à l'attaque pour finalement obtenir ce qu'elle veut. Et sa fille fut guérie alors même. Elle prie aussi avec confiance, nous dit l'Écriture, disent les pères. Car bien qu'étant une païenne, Elle garde un ferme espoir d'être entendue par le Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Elle prie avec ardeur et charité, en intercédant pour sa fille comme si c'était pour elle. Notez qu'elle ne prie pas pour elle, elle prie pour sa fille, qui est tourmentée par un démon. Elle prie également avec constance et persévérance, persistant après avoir été repoussée deux fois, mais toujours ardente dans sa prière. Nous aussi, mais bien chauffé, il nous faut, quand on prie, il faut prier tous les jours. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se sauve. Ce dame, disait saint Alphonse de Ligurie, il faut prier nous aussi avec humilité, avec modestie, avec prudence, avec révérence, religion, dévotion, avec confiance, avec ardeur et charité, avec constance et persévérance. Donc la cananéenne, en fait, est fait un double acte de foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, acte de foi dans l'incarnation, donc dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ça c'est l'humanité. Et en même temps, elle voit derrière l'humanité la divinité qui est cachée. Voyez comment la cananéenne confesse à la fois la divinité et l'incarnation du Fils de Dieu. En l'appelant Seigneur, elle rend hommage à sa souveraine, à sa majesté suprême. Et en l'appelant Fils de David, elle affirme son incarnation. C'est la phrase de l'évangile. Seigneur, fils de David. Seigneur, c'est Seigneur Dieu. Fils de David, c'est fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, vous vous êtes incarné, vous avez accepté d'unir dans votre personne, deuxième personne à la Sainte Trinité, puisque vous êtes Dieu, vous avez accepté d'unir la divinité avec l'humanité. Donc, elle voit un homme, mais derrière cet homme, elle voit la divinité qui est cachée. Il n'y a rien de plus misérable que l'homme, rien de plus superbe, rien qui soit à la fois plus digne et plus indigne de compassion. Car il n'y a rien qui soit plus digne de compassion qu'un misérable, et rien qui la mérite moins qu'un misérable qui est orgueilleux dans sa misère. Ça, le drame de l'homme moderne, sa misérable et sa misérable orgueilleux. Alors l'orgueil du misérable, ben, coupe complètement les allées par lesquelles la grâce peut rentrer dans cette âme. C'est le drame vraiment de ce monde moderne dans lequel nous sommes obligés de vivre. La misère orgueilleuse. Que l'homme soit un pauvre type, c'est absolument évident, mais un pauvre type plein d'orgueil, comment voulez-vous que ce pauvre type puisse trouver la grâce du bon Dieu? Son orgueil empêche la grâce de passer dans cette âme. Il faut que Jésus-Christ donc crée dans la nature humaine cette oui spirituelle qu'elle a perdue par le péché. Donc nous sommes tous devenus un petit peu des aveugles spirituels. Nous sommes devenus des muets spirituellement parlant. Nous sommes devenus des sourds spirituellement parlant. Nos sens sont paralysés, on ne peut rien faire. Donc les pères font bien remarquer que la oui spirituelle empêche. Oui spirituelle qui ne fonctionne plus correctement va être un obstacle sur le chemin de la grâce. Donc le péché va couper les oreilles de notre âme, va enlever, couper en quelque sorte le nerf auditif qui permet à l'oreille de transmettre ses informations, les sons qu'elle entend au cerveau. Et donc le cerveau ne pourra plus avoir une véritable idée de ce qui se passe à l'extérieur. L'image présentée par le cerveau dans le cerveau sera une image trouble parce que justement le nerf auditif n'est plus là, ou le nerf olfactique n'est plus là parce que les gens ne sentent plus rien, ou le nerf visuel n'est plus là parce que les gens ne voient plus rien. Donc par le baptême, le bon Dieu va nous rendre, nous restituer en quelque sorte toutes ces sens spirituels. Il va nous restituer l'oreille spirituelle, le toucher spirituel, le nez spirituel et surtout les yeux spirituels. On va voir, on sera capable de voir derrière l'humanité, notre Seigneur, sa divinité. Et comme les pères sont d'une richesse, ce que j'espère par ce cours, même si ce cours est pas très facile ni à recevoir ni à donner, on a un énorme travail de préparation pour aller chercher tous ces pères, mais j'espère que ça vous donne un petit peu, au moins ceux qui cherchent la vérité, donne l'amour, si vous voulez, de l'interprétation traditionnelle de l'Église. Vous voyez par vous-même comment ces explications que je vous donne, qui ne sont pas de moi, hein, je me contente de lire les pères, c'est tout, j'explique un petit peu, mais ces explications n'ont plus rien à voir, ni en général, ni dans le détail, avec l'enseignement de l'Église de Vatican II. Oui. Quel dommage de voir tant de gens qui ont un mépris des pères de l'Église. Un mépris des pères de l'Église, c'est mépris de Dieu, c'est mépris de l'Église elle-même. Il reste quelques minutes, on a encore le temps d'attaquer les versets 29 à 31. Finir cette page 42 quand même. Ensuite, il restera plus que 3 pages pour finir le chapitre 15. On aura fait presque plus de la moitié de l'évangile de Saint Matthieu. Vous voyez qu'on est au bout, parce qu'il y a 4 évangiles. Alors, chapitre 15 de Saint Matthieu, versets 29, 30 et 31. Étant parti de là, Jésus vint près de la mer de Galilée et montant sur une montagne, il s'y assit. Alors des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des muets, des aveugles, des boiteux, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Ils les jetèrent à ses pieds et il les guérit. De sorte que les foules étaient dans l'admiration, voyant les muets parler, les boiteux marcher, les aveugles voir et glorifier le Dieu d'Israël. Donc c'est la réalisation de la prophétie de Saint Jean-Baptiste, donc, qui a annoncé que les muets allaient parler, que les boiteux allaient marcher, que les aveugles verront la lumière et que tout le monde pourra voir la gloire de Dieu. Caché derrière l'humanité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc après avoir donné une figure de la conversion des gentils dans la guérison de la fille de la Cananéenne, vient dans la foule, parce qu'en effet, après que la multitude des nations sera entrée dans l'Église, tout Israël sera sauvé. Vous voyez, c'est la prophétie de Saint Paul aux Romains. Donc après que la plénitude des nations sera entrée dans l'Église, c'est-à-dire après que l'Église aura conquis le monde entier. Finalement, Israël lui-même sera sauvé. Il y aura une conversion des Juifs à la fin des temps. Et les Juifs deviendront véritablement nos frères dans la foi, après avoir été les ennemis de la foi catholique pendant si longtemps. Donc, c'est tous ces malades physiques, donc ces muets, ces boiteux, ces aveugles, représentent les malades spirituels, les pécheurs. Les muets qui peuvent plus parler pour annoncer leur péché au confessionnal, ils sont plus capables de se confesser parce qu'ils sont plus capables d'accuser leur péché. Les boiteux sont capables de marcher droit, donc ils représentent ceux qui gardent des occasions de péché, qui ne peuvent pas se convertir à cause de ça. Les aveugles ne voient plus la vérité, ne voient plus la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont aveugles. Il y a une cécité spirituelle qui est bien plus grave que la cécité intellectuelle, que la cécité physique, pardon. Donc le mutisme spirituel, la boiterie en quelque sorte spirituelle, la cécité spirituelle sont bien plus graves pour une âme que ces malheurs physiques que l'on voit autour de nous, qui étaient très fréquents en temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la mer sur les bords de laquelle arrive notre Seigneur Jésus-Christ, il vient sur les rives de la mer de Galilée. Cette mer est la figure du trouble et de l'agitation de cette vie. C'est la mer de Galilée parce que les hommes passent de la pratique des vices à celle des vertus. Ils montent de là, donc il vient près de la mer de Galilée, il monte sur la montagne. Et cette montagne, il monte sur le sommet de la montagne comme l'oiseau qui provoque ses petits encore faibles à prendre leur essor. Quand il monte sur la montagne, c'est la montagne spirituelle. Cette montagne spirituelle représente le Christ. Donc, Christ veut élever l'esprit de ses auditeurs, en bas de la page 42, jusqu'à la méditation des vérités sublimes et célestes. C'est la mer de Galilée. Il s'assied sur le sommet pour nous montrer qu'on ne doit chercher le repos que dans les choses du ciel. Alors, les pères m'ont expliqué justement, ce que représentent toutes ces infirmités. Les muets sont ceux qui ne louent jamais Dieu. Ça, c'est le mutisme spirituel. Les aveugles, la cécité spirituelle, ceux qui ne comprennent pas les voies de la véritable vue de vie, sont capables de marcher droit parce qu'ils ne voient pas où ils doivent marcher. Les sourds, la surdité spirituelle, ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Les boiteux, ceux qui ne marchent pas droit dans le chemin du devoir. Et les infirmes, les estropiés en général, sont ceux qui sont frappés d'impuissance par les bonnes œuvres. Donc le démon, lorsqu'il attaque une âme, va attaquer d'abord les sens spirituels de cette âme. Fermer les yeux de l'âme pour qu'elle puisse plus voir notre Seigneur Jésus-Christ. Va fermer les oreilles de cette âme pour que cette âme ne puisse plus entendre la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Va empêcher les membres de cette âme, de ce corps, de fonctionner correctement. Cet homme va devenir boiteux, va devenir paralytique, paralysé, incapable de se lever, d'aller vers notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il ne puisse pas être guéri. Donc, au sens moral, la fille sous l'emprise du démon, fille de la Cananéenne, et l'âme tentée, polluée par le péché, qui ne doit pas compter sur ses propres forces, mais espérer dans le Christ. Elle doit l'invoquer avec humilité, se reconnaissant comme un chien, c'est-à-dire un vil pécheur, mais sans désespérer d'obtenir le pardon. Il faut un grand physicien pour soigner les grandes maladies, un grand Dieu pour faire les grandes œuvres, et un grand Christ pour sanctifier et sauver les pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et donc en tant que Dieu, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc la jeune fille représente l'Église des gentils. Les Juifs qui étaient au début des enfants sont devenus des chiens à cause de leur infidélité au Christ selon les paroles du psaume « Des chiens nombreux m'entourent ». Mais les gentils qui étaient des chiens sont devenus des enfants et mangent à la table du Christ le pain de la Sainte Eucharistie et le sens caché des Écritures comme s'ils étaient la moelle et la graisse du froment. Les gentils, les païens vont prendre la place du peuple élu, encore une fois j'ai déjà expliqué, parce que le peuple élu ne veut plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, mes bien chers frères, si nous constatons que nous sommes muets, aveugles, sourds, boiteux ou infirmes ou estropiés, eh bien, occupons-nous rapidement, avec zèle, de nos infirmités. Le bon Dieu est un médecin, comme une antenne de la Croix-Rouge, si vous voulez, il faut y aller, il faut avoir le courage d'y aller, et puis se présenter au médecin spirituel qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prêtre, pour obtenir le pardon de nos péchés. Si on reste dans sa misère, on n'obtiendra rien du tout. Donc relisez par vous-même, mes bien chers frères, pendant cette semaine, relisez ces textes, encore une fois, ces textes des pères sont tellement riches qu'on ne peut pas tout expliquer, moi j'en suis pas capable, et donc relisez pendant la semaine les textes et la partie qui correspond au cours que vous venez d'entendre. Donc nous en sommes maintenant à la page 43, au verset 32, on est presque à la fin du chapitre 15, qui n'a que 39 versets, donc avec la grâce du bon Dieu, nous finirons le chapitre 15, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.